Andreas Malm et c'est publié à La Fabrique. Voilà, et c'est sur cette musique, peut-être tu peux nous l'annoncer, Lulu, le chanteur.
Ah, c'est Khalifa.
c'est Bachir Makhalifi.
Voilà. Tu prononces mieux que moi.
non, c'est parce que je t'ai pris un peu au dépourvu, c'est pour ça. Donc la semaine prochaine, il me reste une minute pour l'annoncer. La semaine prochaine, nous sommes donc le samedi 18 novembre, et là nous parlerons donc de cinéma, mais également de bouquins, et nous reviendrons, j'espère, aussi sur le coffret de Delphine Siric, parce qu'il y a beaucoup à dire, au moins vous donner un petit peu les scripts des différents films que vous pouvez trouver donc dans ce coffret. Donc samedi 18 novembre, la semaine prochaine, ce sera donc le testament de Denis Arcan, La Vénus d'argent de Helena Klotz, La rivière, qui est un très beau documentaire de Dominique Marchais, et enfin c'est un entretien avec Alain Pozzoli sur le film qu'il a écrit. Il a écrit avec Jean-Michel Ropper, pardon, j'oublie le réalisateur en plus. Jean-Michel Ropper et Francis Tournoy. Et donc nous parlerons de ce film avec Alain Pozzoli, qui donc en est l'auteur, mais non le réalisateur. Et c'est l'étrange parcours de Jean. Et c'est l'étrange parcours. Et c'est un voyage entre la Grande-Bretagne, l'Écosse et l'Irlande. Donc vous verrez. Puis ça parle de vampires, bien sûr, puisqu'il y a Alain Pozzoli. Donc voilà. Très très bonne semaine. Et surtout, eh bien, tenez bon.
Seul, bel ami Jim a le blues. Seul, bel ami Jim a le blues.
Radio Libertaire 89,4 MHz de Soutsène, magazine de créatures radiophoniques. J'avais prévu pour ouvrir ce magazine aujourd'hui un billet sur lequel j'allais parler de la responsabilité du fait d'être coupable ou non, du fait que si l'on s'appelle Mohamed, on doit prendre parti pour un côté, du fait que si l'on s'appelle Samuel, on doit prendre parti pour un autre côté, et puis le fait d'être éventuellement innocent. Alors je m'étais dit, je vais partir de la déclaration de Raymond Barre lors de l'attentat de la rue Copernic. Ça vous dit quelque chose? Ou, si mes souvenirs sont exacts, on avait attribué à Raymond Barre une déclaration où il y avait des victimes juives et des victimes innocentes. Et je m'étais dit, ça interpelle, ça... Et puis en fait, j'ai réécouté, et Raymond Barre, dans la précipitation, avait parlé d'un meurtre qui visait des Israélites et qui avait fait mourir des victimes innocentes. Donc il n'y avait pas cette séparation. Je me suis dit, bon, je dois respecter effectivement les propos des uns et des autres. Et puis, je ne trouvais plus d'angle d'attaque, et dans le même temps, je suis tombé sur ce texte d'un de mes anciens élèves, d'ailleurs, parce que ben, des élèves dans ma carrière, j'en ai vu passer 1500 avec toutes les têtes, tous les genres et tous les prénoms possibles. Et là, cet article d'un de mes anciens élèves commence ainsi. Si les médias et les réseaux sociaux ont démontré quelque chose ces dernières semaines, c'est bien le pouvoir du langage. Question. Israël est-il un pays de colonisateurs, auquel cas il est mauvais selon les normes actuelles, ou une terre de réfugiés, ce qui pourrait automatiquement le rendre bon? Le Hamas est-il un mouvement génocidaire, comme il se prétend lui-même, ou un mouvement de résistance, comme il se prétend également? Gaza est-elle un État en déliquescence ou une prison à ciel ouvert? Les civils gazaouis sont-ils des victimes de l'armée israélienne ou des otages sacrifiés par le Hamas? En supposant qu'8000 civils aient été tués, s'agit-il d'un génocide ou l'État fait-il preuve de retenue? Ce conflit d'ailleurs a-t-il commencé en 1967, en 1948, dans les années 20, au 19e siècle? À quelle date commencerons-nous à décider à qui appartient la terre et qui est le nouvel immigrant, un envahisseur? L'Iran est-il un allié des Palestiniens, ou bien un État terroriste, ou bien une nation colonisatrice? Qu'en est-il de la Syrie, de la Jordanie et des États-Unis? Critiquer la politique d'Israël, est-ce de l'antisionisme ou de l'antisémitisme? L'antisionisme est-il un appel contre le gouvernement israélien ou contre les citoyens israéliens? Les Juifs ont-ils immigré vers Israël depuis l'Europe et les pays arabes ou ont-ils été chassés? D'ailleurs, qu'est-ce qui fait d'une personne d'être un Israélien ou un Palestinien ou un civil d'ailleurs? Ou une cible acceptable? Non, tout comme les images, les mots ne sont jamais totalement neutres. Ils ne l'ont jamais été. Et selon vos réponses aux questions que je viens d'énoncer, il y a de fortes chances pour que vous applaudissiez ou retweetiez l'une des factions impliquées dans le conflit. Et si tel est le cas, vous êtes impliqué, même à distance, dans des meurtres. Or, vous n'êtes pas le seul, loin de là. Aujourd'hui d'ailleurs, grâce à la puissance combinée des théoriciens de la propagande, des réseaux sociaux, des robots et de l'IA générative, n'importe quelle affirmation peut être amplifiée et remplir le discours public sans donner à aucun de nos cerveaux la possibilité d'en examiner la validité. Cela joue sur notre besoin collectif de lutter contre l'injustice, de définir un « nous » et un « eux », de faire quelque chose, n'importe quoi, pour protéger celui que nous avons décidé d'être, un « nous », quel qu'en soit le coût pour « eux ». Cela joue également dans notre besoin d'être la personne qui réfléchit, confrontée à des obstacles impossibles, luttant contre leur propagande. D'ailleurs, tenez, si vous avez lu 1984 de George Orwell, ça peut vous sembler familier. En annexe, l'auteur décrit un langage et un contenu d'informations dénués de sens qui peuvent être prononcés, criés à l'ennemi, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire du cerveau. Nous ne sommes pas des citoyens de 1984, non, non. Au contraire, nous sommes noyés sous des informations provenant de nombreuses sources, ayant des préjugés et des programmes opposés. Ce qui signifie que nous pouvons ouvrir des livres, des chaînes d'information, des sites web qui appartiennent aux différentes factions et les lire intégralement, en essayant de comprendre et en essayant de savoir pourquoi ils pensent qu'ils ont raison. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec eux, mais nous pouvons arrêter de respecter les règles de notre propagande. Au contraire, cela fera de vous et moi des gens meilleurs. Alors, qui a raison? Je n'oserais pas vous dire qui a raison et qui a tort dans ce conflit. C'est pas que je m'en fiche. J'ai connu des gens des deux côtés, ou du moins de deux des très nombreux côtés de ce conflit. J'espère qu'ils sont tous vivants. Non, la raison pour laquelle je ne répondrai pas à cette question est que je pense que ce n'est vraiment pas la bonne question. Dans un tel cycle de violence auto-entretenue, avoir raison serait le chemin vers la droiture. Ce qui signifie, la droiture, que votre ennemi, quel qu'il soit, mérite d'être écrasé. De la droiture, se tromper est impossible, car votre ennemi a fait tellement de mal que votre camp ne peut sûrement que trouver le bon chemin. Si je pouvais choisir plutôt une question à laquelle nous devrions répondre, ce serait celle-ci. Comment pouvons-nous améliorer les choses? Répondre à cette question demande des efforts. C'est bien plus difficile que de se sentir juste. Ça nécessite de nous libérer de notre certitude et de notre droiture. Ça nécessite le courage de les regarder, de regarder leurs causes, leurs souffrances, d'accepter qu'ils sont tout aussi valables que nous. Ça nécessite aussi de regarder dans les yeux un parent en deuil, l'un d'entre nous, et de lui dire froidement que le crime ne sera pas vengé. C'est aussi une question beaucoup plus dangereuse, car cela signifie de quitter le confort, de faire partie de nous et d'avoir des amis, maintenant des alliés, qui peuvent nous renvoyer nos certitudes. Des gens des deux côtés ont été assassinés, par des nous avec une certitude pour avoir tenté de répondre à cette question, et je ne vais pas vous donner de réponse. Voilà, je suis tombé sur ce texte d'un de mes anciens élèves. Je ne vous dirai pas d'ailleurs si cet ancien élève s'appelait Philippe, Thierry, Samuel, David, Samir, Ahmed, Élie, Martine ou autre. On s'en fout.
Je sais, là-bas tes sœurs, tes frères, sur un petit bout de terre, où il n'y a pas eu de silence depuis tant d'années. Là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, il y a comme une ressemblance, et pourtant tu... Chez ses amis de France, on a montré du zèle, on a fait la vaisselle sans casser d'assiette. Tu m'invites à la danse, le vin donne des ailes, la terre est un peu molle, on s'envole. Fais-moi rire comme tu sais. Là-bas tes sœurs, tes frères, là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, y a comme une ressemblance, y a comme une ressemblance.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, où je ne vous ai pas fait en ouverture des « Je me souviens ». Je vous ai fait ce texte que j'ai donc trouvé cette semaine. J'aurais pu faire quand même un petit « Je me souviens » avec l'un des 84 000 noms qu'il y a au fronton du Père Lachaise, l'un des 84 000 noms des morts de la guerre de 1914. Là, comme nous sommes à 11 novembre, ce serait de circonstance, mais on va commencer tout de suite. Suite dessous de scène avec autour de la table, et bien autour de la table des piliers habituels de cette émission, sous une casquette et à la guimbarde, il y a Moa, et puis j'aperçois également Laurent Garibian, et puis bien sûr nous aurons trois petits cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie. Mais je vous laisse tout de suite prendre la parole, l'un ou l'autre, attention, ou exclusif, pas tous les deux en même temps.
Oui. Bonjour, bonjour. Alors j'ai le micro vert, hein, c'est bien ça, Nicolas. Hein, ça y est, Moa est là, qui va.
Il a le micro jaune.
Il a le micro jaune. Tout va bien, voilà. Et puis notre invité, Mickaël Poujadeau, a le micro bleu, donc tout va bien. Et nous avons donc Montserrat qui est discrètement installé pour écouter cette émission autour de Mickaël Poujadeau, chanteur catalan. Il se passe beaucoup de choses en Catalogne en ce moment, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, en ce moment, on va pas beaucoup en parler, mais on peut bien sûr aborder quelques questions très très rapidement, mais nous sommes là pour l'actualité, puisque l'actualité c'est que demain à Publico, la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Fille du Calvaire, Oberkampf, il y a des bus partout, c'est très facile. Et bien dans cette librairie, à 16h, il y a un concert que j'ai souhaité organiser depuis longtemps, puisqu'avec Ronan, et bien, qui est le mandaté à la programmation, je lui fais quelques propositions de par an. Et ma deuxième proposition, c'est Mickaël Poujadeau pour son immense travail. et parce qu'il n'est pas venu sur Paris depuis très très longtemps. Donc 16h, demain, Librairie Publico, concert exceptionnel, Michel Pujado. Et c'est l'actualité. Et avant de donner la parole à Michel, on va tout de suite écouter un souvenir que Nicolas, notre timonier, grand timonier, nous avons tous son livre bleu d'ailleurs, hein, ou noir plutôt, livre noir, dans la poche. Nicolas m'a fait une très belle surprise l'autre jour, il m'a trouvé un document qui fait partie de sa collection personnelle, que Michel Pujado n'a pas écouté depuis 1999, et on va l'écouter tout de suite, et on en reparle après, on va recueillir les impressions de notre invité.
El piano del pobre te'l pots penjar del coll. Fa cantar el manobre també la gent del moll. Mozart li va gran, però els pulmons estan plens d'eclecticisme. De fet, barrejar sonata i java no és cap cataclisme. El piano del pobre és un Chopin de maig. Quan un núvol s'obre i el sol deixen a un raig, es posa content i ens ho fa evident, tot tirant de veta. És molt ben manat, quan creus que ha marxat, torna a obrir l'aixeta. El piano del pobre te'l lligues als ronyons. El món és menys llòbrec amb les seves cançons. No et deixa penjat, torna si ha marxat, ho fa cada dia. Els enamorats se'ls vol sempre armats d'una melodia. El piano del pobre és un joguet d'un ral. Quan l'amor surt sobre, de fet li és ben igual. Però canta amb esforç les penes dels cors i ens posem tan tendres que sovint l'amor reneix amb esforç de les seves cendres. El piano del pobre sovint s'arrapa el pit. Mariner i manobre se'l duen fins al llit. Però paguen com cal el seu recital i llencen monedes. Si el músic pèl roig treu del seu estoig el company de feina, el piano del pobre escampa pels carrers els seus sons d'alcova i fa emprenyar el burgès. Mentre algun barbut d'un vell institut es treu les ulleres per sentir millor la rància cançó que m'encès les feres. El piano del pobre menteix foll i embriac, es muda de roba i es fa passar per bac. Si saps que en el fons pitjarà els botons fins que se'ls destrossi, és que és prou conscient que en pluja o en vent cal fer anar el negoci.
Tu viens, chérie?
Les applaudissements des spectateurs du théâtre du Trianon, le 14 juillet 1999.
Il y a longtemps de ça, et je n'avais jamais écouté cet enregistrement. Et en fait, j'avais fait les traductions, on m'avait demandé parce que je connaissais Léo, alors on m'avait demandé de participer à cet hommage qui était fait en 14 juillet, parce qu'il avait eu la géniale idée pour un nanar de mourir en 14 juillet. Et alors, j'avais traduit 3 chansons, je crois, mais voilà, j'avais chanté ces chansons que je n'avais jamais chantées en catalan. Donc, c'était une première et une dernière, peut-être.
Oui, parce qu'en t'écoutant hors antenne, tu étais, en te voyant, Michel, en train de t'écouter toi-même, bon, évidemment, comme beaucoup d'artistes, on se dédouble, on se regarde et on se dit oh là là. Mais là, c'était une première expérience. Hein. C'était tu nous as bien dit que c'était chanté pour la première fois et tu avais fait cette adaptation.
Oui, j'avais fait beaucoup d'adaptations des chansons françaises parce que j'aime beaucoup la chanson française, je la connais bien. Et au cours des années, j'ai fait beaucoup d'adaptations pour d'autres chanteurs. Alors, j'ai fait des adaptations de Ferré, de Brel, de Francis Lemarque, de Gilbert Lafaille, qui est aussi un copain, pour des chanteurs catalans. Mais pour moi, non. Pour moi, je crois que je n'ai chanté que des chansons Brassens en catalan, à part de mes chansons à moi. Et peut-être que j'ai enregistré... Ah, justement, la troisième chanson que j'avais chantée ce jour-là, c'était la seule chanson que j'ai enregistrée. C'était Les Poètes de Ferré, justement.
Les Poètes.
Les Poètes, oui. Ah, oui, ce sont des drôles de types, etc.
Oui, alors là, elle est sur ce disque-là.
Hein. Je suppose. Mais
tu ne souhaites pas la te réécouter.
Maintenant, peut-être que non.
On est curieux. On est curieux.
Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Hein, parce que...
Bon, ben, on va demander à Nicolas. Voilà, on va voir.
Ouf, mais...
Tu veux qu'on teste ?
Oui, on va tester. Allez, on est en direct.
Oui.
On est dans l'impro.
Són éssers molt estranys que viuen de la ploma o que no en viuen pas, depèn de l'estació. Són éssers molt estranys que travessen la broma amb passes lleus d'ocells sota ales de cançó. Tancada en un flascó tenen l'ànima prima, els seus diners als llibres que mai no han editat, la seva dona viu lligada a alguna rima que ens parla de l'amor i del fruit desitjat. I pinten de colors l'asfalt gris i discret quan el trepitgen creuen que van per l'oceà amb cintes de vellut decoren l'alfabet i treuen pel carrer els mots a passejar. Tenen sovint un gos, company de vi i misèria, que els llepa tendrament les mans mentre li surt dels ulls brillants i humits la llum fidel i etèria que els guia lluny, molt lluny, al país de l'absurd. Són éssers molt estranys que en contemplar les flors i veuen amagats somriures femenins. Són éssers molt estranys que canten les dissorts tot fent sonar el seu cor com sonen els violins. Amb braços sense plomes enyoren les grans ales que la literatura enganxarà més tard al seu espectre gèlid quan pugin les escales que els duguin de la mort als grans salons de l'art. Caminen per l'atzur amb el cap a les viles i saben aturar-se per beneir els cavalls. Caminen per l'horror amb el cap a les illes on els botxins ni arriben ni poden fer-hi estralls. Titllen d'artificials els seus breus paradisos i fiquen els seus versos al fons d'un calabós, talment com si poguessin recloure un bloc de pisos perquè a la claveguera hi ha els amos i els senyors.
Merci.
Extrait du double CD qui est même référencé sur YouTube avec la liste des morceaux, mais comme précisé, double CD distribué aux participants. Donc moi j'ai gardé le mien, Mickaël n'a pas gardé le sien, c'est bien fait pour lui.
Je n'ai jamais reçu le mien.
Bon, mais les membres de l'association...
Je ne savais même que ça était enregistré.
Alors, c'est un document que Nicolas va me prêter. Je vais essayer d'en faire quelques copies.
Merci, merci.
Et je note sur mon pense-bête, parce que c'est un document, voilà. Et on verra, on verra. En tout cas, Nicolas me l'avait proposé un peu presque par hasard l'autre jour. Et je me suis dit, mais voilà un beau trésor. Et voilà une belle synchronicité, parce que il l'avait sous la main.
Ouais.
Et je vois Miguel Pujado. 3, 4, 5, donc 3 plages.
Surprise.
Avec un très beau programme dont tu m'as parlé avant l'émission.
Oui, parce qu'il y avait Francesca Solville, il y avait, que je la connaissais des années 80, justement, parce qu'on avait fait venir en Catalogne Francesca pour un concert, rien qu'avec des chansons d'Aragon, devant Louis Aragon, parce qu'on avait invité Aragon, c'était quelques mois avant sa mort. Et puis, il y avait Michel Legrand avec son fils Benjamin, il y avait Paco Ibáñez, il y avait Annie Cizaru, qui est spécialisée justement en Léo Ferré, et quelques autres. Moi, j'ai chanté après Ivry Gillis, qui était un très grand violoniste, qui avait mis en deuxième violon sur une chanson très belle de Léo, qui s'appelait Les Étrangers, justement. Alors, c'était une belle soirée, oui.
Et oui, puis avec Ivry Gillis, c'est une belle histoire, parce que c'est l'histoire que beaucoup connaissent, mais on la rappelle dans les grands traits. Il se trouvait à côté, dans le studio d'à côté, oui, Léo Ferré.
Il a entendu la chanson.
Il est entré.
Et il a mis le deuxième violon. Oui, c'est ça.
C'est extraordinaire. Oui. Hein. C'est belle rencontre. Je crois que c'est magnifique. Oui, là, le plateau du 14 juillet 1999, hein, tu nous en as parlé. C'était notre séquence nostalgie. Enfin, quand même, il y a quand même des belles sensations.
Oui, oui.
Alors, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission de Soutsène, avec Nicolas, notre grand timonier, qui nous apporte donc des trésors, et qui a déjà reçu Miguel Pujado il y a très très longtemps, hein, il y a plus de, peut-être un petit quart de siècle, peut-être, hein, Nicolas, voilà.
C'est en passe.
Et donc, eh bien, je prends la relève, mais toujours dans l'émission de Soutsène, que pilote Nicolas. Et puis nous avons parfois quelques échos. Nous avons Moa qui va intervenir tout à l'heure pour sa chronique de théâtre.
Prendre votre temps.
Hein, voilà. Mais là, qui nous laisse
très. Il y a pas le feu au lac, comme disent les Canadiens.
Qui nous laisse. Oui, il n'y a pas le feu au lac. En fait, ce n'est pas les Canadiens, ce sont les Suisses.
Ah.
Mais oui, parce que c'est le lac Léman.
Je croyais que c'était Moa. Les Canadiens qui disent.
Tu vois, voilà. Bon, alors, on va avancer et on va écouter Brassens, parce que Brassens, là, il faut qu'on en parle, parce que comment j'ai contacté Miguel Pujado, puisque je le rencontre, là, depuis un quart d'heure, pour la première fois, oh, oui, depuis 4 ans. C'était en 2018, me semble-t-il.
Je crois. Tu m'as dit 18 avant.
Georges Varenne, fils de
Pierre Loki. Le fils de Pierre Loki, oui.
Qui est devenu un ami, et à l'époque, Georges, tout ce qui concernait Brassens, ça m'intéressait. Alors, il m'a mis en contact avec des...
Justement, il y a quelques années, pas mal d'années aussi, j'avais chanté, pas loin du Père Lachaise, pas loin d'ici, à la Manufacture Chanson, et je me souviens, un souvenir aussi très, 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 très émouvant, c'est que Georges m'avait apporté... Si je voulais jouer quelques chansons avec la guitare de Brassens, que Brassens avait offert à son papa. Alors j'ai joué avec une guitare Favino, c'était, je crois, celle du dernier Bobino en 76.
Oui.
Et c'est Georges qui m'avait apporté cette merveille.
Ça, c'est un immense cadeau.
Et ouais, oui, oui.
Vraiment. Parce que Georges, il avait ce sens de l'amitié extraordinaire. Et bon, il se trouve que j'étais aussi à ce dernier Bobino, donc j'ai pu voir Brassens. C'était voilà, on savait pas, hein, que ça allait être le dernier Bobino. C'était extraordinaire. Et donc Georges Varenne, parce que je cherchais des traductions de Brassens, des traducteurs de Brassens. Alors j'en ai eu, puis j'ai aussi contacté Pierre Schuller aussi. Que tu connais bien. Et Georges me dit, mais tu sais, il y a un très bon traducteur de Brassens en catalan. Ah bon, catalan, tiens, voilà, parce que je connaissais Nanos Vampi, italien.
Nanos Vampi, oui.
Oui.
La première fois que j'ai chanté en Italie, c'était invité par Nani, justement, à Milan, au Théâtre Lyrique de Milan. Il y a longtemps de ça.
Et, aussi. Oui. Et puis j'ai entendu Brassens aussi
en russe, il y avait Alexandre Vassenov, il y a en castillan évidemment, en espagnol Paco, et Joaquín Carbonell en aragonais. Il y a pas mal de gens qui ont traduit Brassens. Hein.
Mais en catalan, tu n'es pas le seul, mais...
Non, justement, quand la chanson contemporaine en catalan a commencé à fonctionner, la Nova Canso, qu'on a appelée à l'époque, la nouvelle chanson, au début des années 60, le premier disque de nouvelles chansons en catalan, c'était un disque de José María Espinas, un écrivain qui avait commencé à chanter aussi, des 5 chansons de Brassens. C'est le premier. Et puis, il a été très peu traduit. Je crois que je suis, à part de deux, trois chansons plus, d'autres auteurs, je crois que je suis celui qui a traduit plus de chansons de Brassens, presque une soixantaine, je crois.
Soixantaine. Bon, il faut le dire, hein. Il faut le dire, le répéter. Je pense que je le répéterai demain quand je vais présenter le concert que tu vas donner à la librairie Publico, venez nombreux, et je dirais donc, voilà, c'est une information, parce que j'ignorais aussi cette donnée-là, 60 chansons.
Je crois, presque, parce que ce sont trois CD, de 1992, je crois, à 2013, tous les 10 ans, presque, j'ai fait mon petit écart de mes chansons, j'ai arrêté de me regarder le nombril pour tenter d'adapter des chansons de Brassens, oui, c'est ça.
Sacré exercice, hein. Ah, adapter oui. Brassens, c'est un travail de,
voilà, sais, de longue c'était quand j'avais fait 5 disques depuis 82, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, j'étais assez jeune. Alors, après 100 disques, j'ai eu un peu l'angoisse de dire, et si j'ai commencé à me répéter, à faire toujours la même chanson, alors j'ai décidé d'arrêter un peu, et pour remplir ces temps, je me suis dit, et si j'ai traduit Brassens, et ça a été l'origine du premier disque Brassens, puis il y a des gens qui m'ont invité à chanter Brassens en France, en Italie, je me suis pris un peu au jeu, et alors 10 ans plus tard, j'ai fait mon deuxième Brassens, 10 ans plus tard, le troisième Brassens, c'est ça.
Oui,
et j'ai chanté Brassens souvent en France et un peu partout, sans le mélanger à mes propres chansons. Demain, je ferai un peu de mélange de mes chansons à moi, avec des traductions Brassens, et même quelques chansons françaises que j'aime bien d'auteurs divers, en tentant de les chanter avec un français plus ou moins compréhensible pour l'auditeur.
Espérons. En tout cas, c'est un beau programme qui se prépare pour demain. Et puis, eh bien, sur la platine, nous avons le disque Brassens. Alors, moi, j'ai le double album, hein, que tu as réédité. Oui. Et un jour, tu pourras m'envoyer le troisième que je...
Le troisième, c'est en réalité celui de la moitié. Là, il y a le troisième et le premier.
Ah, très
parce
bien.
Que le premier était épuisé, alors on l'a réédité avec le troisième. Mais je t'enverrai le deuxième, évidemment.
Oui, donc le troisième et le premier, d'accord. Je suis en train de suivre ce parcours très, très original de notre invité aujourd'hui, Michel Pujadeau. Eh bien, on va l'écouter dans La Mauvaise Réputation. C'est donc le CD1, c'est donc la plage 5, je dis
non,
ça.
Non, la plage 5, je crois que c'était Je suis un voyou, je commence à parler.
Alors, j'ai peut-être noté un peu rapidement.
Pas de problème.
Mais on va l'écouter et puis on va retrouver le titre tout de suite.
Oui,
on
ça.
Va demander à Michel son éclairage.
Tinc al més profund del cor una història antiga, el record d'una noieta que vaig estimar. El temps amb la falç fa que al final tot faci figa, però el meu amor és ben viu, res no l'esborrarà. Vaig perdre la tramuntana en trobar la Roser, reina vestida de llana, deessa del carrer. Si les margarides aprenguessin a ballar, és a la Roser que totes farien pensar. Li vaig dir, la Santa Verge és el teu retrat, que Déu vulgui perdonar-me, però era veritat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. La menuda anava a missa a resar i resar, i tant bellugava els llavis que els vaig voler tastar. Ella em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Vaig jurar-li per la Verge un amor d'anyell, que Déu vulgui perdonar-me, cadascú per ell. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Era una noia com cal, va estalviar-se els crits quan li vaig buscar la brusa, els dos fruits prohibits. Sí que em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Li vaig esquinçar la roba, però no ho vaig fer exprés. Que Déu vulgui perdonar-me, no podia més.
I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit. Jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Vaig perdre la tramuntana en perdre la Roser. La van fer casar per força amb un trist botiguer. Ja deu tenir alguns marrecs que de dia i nit ploren com vedells fent torns per xarrupar del pit. Però abans que ells la seva mare jo l'havia mamat. Que Déu vulgui perdonar-me, estava enamorat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit. Jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit.
Eh, ça sonne bien. J'ai l'impression d'entendre « je suis un mal appris » finalement, au lieu de « je suis un voyou ».
C'est une chose à peu près.
Oui.
Oui. Soc un malparit, mal né, une chose comme ça, ce serait la traduction.
Oui, mais ça, c'est tout le problème. Traduction ou adaptation, comment tu dirais pour ce que tu fais, toi?
Eh bien, en tentant d'être le plus fidèle possible, évidemment, il y a des choses qu'il faut adapter afin que la chanson ait l'air d'être écrite directement dans ma langue. Donc, il faut trahir un peu, justement, pour être plus fidèle dans le fond. C'est quoi?
Je crois que Brassens adorait faire des clins d'œil à Victor Hugo, à Verlaine et autres pour des tournures de phrases. Là, il a fallu que tu prennes dans ton patrimoine catalan ou...
Parfois, oui, parfois, ou même en changeant quelque peu le référent pour les adapter. Par exemple, je sais que j'avais adapté une des chansons posthumes de Brassens qui avait été enregistrée par Jean Bertola. Alors, c'était Les Sceptiques et il parlait de Courteline. J'ai pensé chez nous, Courteline, on connaît très peu. Et alors, j'ai changé Courteline par Cioran, qui était aussi un pessimiste et sceptique radical, mais qui était peut-être plus connu du public de chez nous. Donc, parfois, j'ai trahi un petit peu, mais comme on dit en Italie, traduttore, traditore, le traducteur trahit toujours un peu.
Trahison nécessaire, parce qu'il faut se mettre à la portée d'un nouvel auditoire, avec des références qui puissent aussi être accessibles, tout en restant... comme disait donc Nicolas, restant fidèle à l'esprit.
C'est ça.
Alors nous avons donc des trésors que tu nous as apportés avec cette discographie, une partie de la discographie de Miguel Pujado. Aujourd'hui donc, 11 novembre, en direct sur l'antenne de Radio Libertaire, émission de Sauts-de-Seine, et avec donc une interview croisée entre moi et Nicolas, qui t'avait déjà interviewé, donc il y a un petit quart de siècle, donc tu vois.
Hein, 4 jours.
Voilà, donc nous sommes là, et puis demain, eh bien venez à 16h, même un petit peu avant, à Publico, pour voir sur scène donc Miguel Pujado, qui n'a pas chanté à Paris, tu n'as pas chanté depuis...
Il y a quelques années, oui.
Quelques années, quand même.
Je crois, la Manufacture Chanson, j'avais fait le Théâtre de la Ménate aussi il y a quelques années, quelques festivals. J'avais participé en 2009, je crois, à l'intégrale Brassens qu'on faisait à Drouot.
Justement. Alors, un petit coup de chapeau à Lionel.
Lionel.
Mais oui, Lionel, que j'appelle souvent, régulièrement, et... Bon.
J'avais chanté 2-3 fois à l'intégrale, justement.
Et aussi, j'ai parlé de toi aussi à Lionel, tu avais aussi chanté à Vaison-la-Romaine.
Oui, 2-3 fois aussi.
Oui, grand festival brassénien, comme on dit.
Brassénien, Vaison-la-Romaine et d'autres festivals, oui.
Voilà,
et donc... puis avec mes chansons, j'ai chanté aussi à Barjac, chanson de parole. Avec, je crois que c'était l'année où j'ai connu, justement, il ne chantait pas, mais je me suis lié d'amitié avec Alain Leprest, que je considère un des plus grands auteurs de chansons des dernières décennies. Et justement, quelques années après, j'ai participé, ça, c'est une petite histoire, en 2011, j'ai fait une traduction d'une partie d'une cantate de Romain Didier de Leprest, qui s'appelait La cantate pour un cœur bleu. On l'a fait à Barcelone avec un orchestre, avec une chorale, et en chantant Romain Didier, Enzo Enzo et moi. Et justement, Romain Didier me disait, je suis en train de faire un disque symphonique avec Alain, et là, c'était en juin, et un mois, deux mois plus tard, il y avait Alain qui était mort en Ardèche, justement, mais je me souviens beaucoup de cette année.
Alors, est-ce qu'il existe un document de cette cantate pour un chœur
La bleu, cantate là-bas? Est enregistrée en version originale en français. Oui. Mais c'était pour une séance spéciale à Barcelone. Je ne sais pas si... Je dirais que non, mais tu vois, je viens d'apprendre que la séance de Trianon était enregistrée. Je ne la savais pas, donc peut-être, je ne sais pas.
Tu pourrais la retrouver ou...
C'était l'Institut français, on avait fait ça en plein air sur le toit de l'Institut français avec un orchestre oui. de cordes, Romain, Enzo, une chorale de mômes catalans et marocains. Et alors, les gens, on avait arrêté la circulation dans la rue, les gens étaient dans la rue, c'était terrible. Mais je ne crois pas que ce soit enregistré.
En tout cas, est-ce que, tu vois, à la faveur de ce que tu nous dis, une question qui me vient, évidemment, c'est un peu ce qu'on appelle l'esprit d'escalier, est-ce que tu as dans tes tiroirs ou dans quelque chose de conscient ou d'inconscient, un souhait d'adapter une chanson de Leprest en catalan? Ça te...
C'est une idée, parce que j'aime beaucoup Leprest. C'est difficile, hein, parce que Leprest a un langage très particulier, mais bon, pourquoi pas?
C'est une idée qui me vient, que je transmets en direct à mon invité, et puis on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine aurons-nous peut-être une belle surprise. Un seul titre, déjà, c'est déjà un sacré travail, hein, bien sûr, mais bon, le choix est immense, et donc c'est une proposition, une idée que je transmets en direct à Michel Pujado, notre invité, d'adapter un titre de Leprest. Ce serait bien, oui. Oui, ce serait vraiment, voilà. Je sais que ça va donner quelque chose de très beau, on peut le parier. Alors, Brassens, donc, tu l'as vu sur scène?
Non, je l'ai jamais vu sur scène, parce que quand Brassens a fait sa dernière, justement, son dernier Bobino, moi j'avais 16 ans. Et pour un monde de 16 ans, pour aller à Paris voir Brassens, c'était un peu compliqué. Et puis, il n'a plus chanté à partir de ce moment. J'ai vu, évidemment, j'ai connu beaucoup de chanteurs français quand j'ai commencé à chanter. Justement, j'ai commencé à faire des chansons, justement, à 16, 17 ans. Et alors, beaucoup d'années après, je me suis lié d'amitié avec Hubert, avec Francesca, j'ai connu Léo, Aznavour, etc. Mais Brassens, je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai connu beaucoup la bande à Brassens a posteriori, parce que il y avait Rick Zimmerman qui avait chanté en première partie de Brassens, qui m'avait invité quand j'ai fait le premier disque de Brassens, m'avait invité à chanter dans son restaurant, le Croque-Notte. Alors, il m'a fait la surprise d'inviter Pierre Onteniente, Gibraltar, José Strovans, Marc Chevalier, qui était le patron de l'Écluse. Alors, je me suis trouvé très bien accompagné. Mais Brassens, jamais. Et Joël Favreau, je crois que je l'ai connu à Milan quand j'ai chanté avec Agnès Vampa, justement. J'ai connu un peu toute la bande,
sauf le bon maître.
Exactement.
Oui, le croque-note. J'y suis allé deux fois avec Patrick Kipper, voilà, que je salue, que nous saluons, et que nous estimons infiniment. Et Eric Zimmerman était là. Et Eric Zimmerman, quel écrivain également.
Et oui, et avec une belle voix de baritone. Et oui, il avait fait un disque très beau où il y avait une chanson inédite de Brassens qui s'appelait Discours de fleurs, que j'apprécie énormément. Et puis, il avait fait tout un disque Brassens enregistré justement au Croque-Notte, rien qu'avec un deuxième guitariste, et je crois avec François Rabat, qui est un énorme contrebassiste, justement.
Grand monsieur que j'ai vu accompagner Paco Ibáñez.
Oui, avec Paco,
sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées au Châtelet. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Il y a beaucoup de choses. Hein. On a 47-8 minutes, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un volet numéro 2 dans quelques mois, l'année prochaine, quand tu reviens sur Paris. Ah oui, là, parce que c'est... Voilà. Et en plus, avant l'émission, tu m'as montré des photos qui sont assez... qui sont déjà des photos d'histoire, des photos
parce
historiques.
Tu me parlais du Trianon, et là, évidemment, il y avait... j'avais oublié, il y avait Marc Augeret aussi.
Marc Augeret. Alors, Marc Augeret, il est sur ce disque m'a confié... ça, c'est un vrai trésor que m'a confié Nicolas. Marc Augeret, c'est magnifique. Vraiment, Là, on a un disque 1, il y a le disque 2, on ne sait plus où il est, là, mais là, on a sauvegardé une partie, en tout cas, de ce qui s'est passé le 14 juillet. Et Nicolas nous disait que tout est sauvegardé sur YouTube. Il y a des
Non, sur YouTube, on ne trouve pas, mais juste c'est référencé sur Wikipédia.
Ah, référencé. Bon, donc là, on a un document tellement exceptionnel qu'on va faire plusieurs rediffusions, d'ailleurs, même si ce n'est pas au mois de juillet, même si on ne parle pas forcément d'une émission consacrée à Ferré. Nous avons plusieurs titres et dans des très belles interprétations, dont celle que nous avons écoutée tout à l'heure, Michel Pujado. Et si l'émission avait été filmée, on aurait vu Michel Pujado en train d'écouter Michel Pujado en 1999. Voilà, ça
va... Un peu plus jeune que maintenant, avec la barbe plus rouge, moins blanche, et c'est ça.
Alors on va écouter...
Mais presque aussi chauve qu'aujourd'hui, parce que les cheveux, je les ai perdus très, très, très jeune.
Très tôt.
Très tôt.
Alors là, on avait écouté tout à l'heure Je suis un voyou. Alors je vais juste te demander, vraiment pour la musicalité de la langue, de nous dire le titre en langue catalane.
J'ai traduit « Choc malparit ».
Voilà, c'est très bien dit, hein, beaucoup mieux que nous. Et là, on a donc le prochain titre qui est sur la platine, qui est en train qui est déjà installé. Eh bien, on va écouter un deuxième titre Brassens, adapté par notre invité aujourd'hui, Michel Pujado.
Glòria a qui frena en sec per tal de no aixafar un eriçó perdut o el fill d'un porc senglar. I glòria a don Joan per haver somrigut a la noia que els altres no haurien mai volgut. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria a la gent que atura la circulació per deixar travessar els gats del carreró. I glòria a don Joan per haver-se citat amb la noia que els altres havien rebutjat. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria a aquell qui no vol cridar amb tota la gent i es nega a prendre part en algun linxament. I glòria a don Joan pel seu discurs galant a la noia en qui els altres no veien cap encant. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria al mossèn que va protegir un protestant quan per Sant Bartomeu la sang anava rajant. I glòria a don Joan que cobrí de petons la noia que cap altre besava pels racons. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. I glòria a aquell soldat que va llançar el fusell quan li van dir a l'hostatge li hauràs de fer la pell. I glòria a don Joan per haver despullat la noia que ningú no havia romangat. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria a la monja que un dia fred i blanc descongelà amb la mà el penis del pobre manc. I glòria a don Joan que feu lluent i encès un cul que a part de seure no servia per res. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria a aquell qui no té cap ideal sagrat però viu sense tocar els ous al veïnat. I glòria a don Joan que volgué fer l'amor amb qui sense ell hauria mort verge, quin horror. És ben lleig aquesta noia, jo la vull.
Ah, la belle leçon de philosophie de Georges Brassens, notamment gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Mais moi j'ai guetté pendant la chanson pour me dire comment ça va être traduit, adapté en catalan. Gloire à la bonne sœur qui partant pas trop chaud déjola dans sa main le pénis du manchot. Cette fille est trop vilaine, il me la faut.
Oui, j'essaye de me rappeler maintenant parce que sans chanter c'est difficile de prendre un couplet isolé. Alors glòria a la monja que un dia fred i blanc, un jour froid et blanc, descongelar amb la mà, degelar avec la mà, el penis del pobre man, le penis du pobre manchot. Ah. C'est presque la même chose. Mais j'ai cherché le blanc pour la rime avec manque.
C'est ça. Alors j'allais chercher le livret, mais il n'y a pas de livret dans cette réédition.
Non, dans cette réédition, non, il y a, mais comme j'ai publié les textes sur mon web.
Oui, alors il faut le dire aux auditeurs, très intéressant.
Et oui, il y a mon web avec les traductions, avec les textes originaux, et je crois que la plupart des chansons sont aussi... Mais par essence, pas la peine, non, parce que l'original est en français.
Oui.
Mais mes chansons, dernièrement, je les publie aussi dans mon web en français, en castillan, en catalan, et je crois que j'ai commencé à faire des trucs en anglais aussi.
Eh ben voilà, c'est bien pour les auditeurs, parce qu'ils vont aller... sur le web, donc, Miguel Pujado, et on va tout trouver.
Hein, oui, presque. Voilà. Je dois mettre un peu à jour, mais presque.
Oui, là, tu n'as pas le temps, puisque tu es à Paris, avec nous, en direct, sur Radio Libertaire, et il y a plein de... Voilà, on a évoqué quelques noms avant l'émission, puisqu'on vient de faire connaissance, hein, c'est tout frais. Et, en tout cas, on faisait connaissance par téléphone pendant quelques années, mais là, ça y est, on se voit, avec Montserrat, qui est là, qui écoute et qui est très réactif parce qu'elle nous a déjà trouvé quelques documents justement
sur la cantate pour un peu voilà. Justement. Si.
Donc, eh bien, oui, Benjamin Legrand, et voilà, qui est venu, qui était là à ta place il y a encore quelques mois.
On s'est connu très peu. Oui, ça, c'était, voilà. Moi, j'ai parlé surtout avec son père. Papa, avec Michel. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de Barbara Streisand, pour laquelle il avait travaillé, il avait fait la musique du film Yentl, etc. Mais avec Benjamin, moi, ça a été une surprise parce que je ne savais pas qu'il chantait aussi. Alors, ça a été très, très joli parce que quand Michel chantait, il y avait Benjamin qui l'accompagnait, et quand Benjamin chantait, c'était à l'inverse, ça a été...
Alors, Benjamin chante...
J'ai regardé ça en coulisses.
Ah oui, alors Benjamin chante toujours, hein. Il part pour le Japon là, l'année prochaine, voilà, il est toujours là. Il a même participé d'ailleurs avec Romain Didier à un hommage à Jean Dréjac.
Ah, Jean Dréjac,
voilà, un bel hommage au Café de la Danse.
Le petit vin blanc.
Eh ben voilà, voilà, donc ici, il y avait le fils de Jean Dréjac qui était là.
Et parce qu'on a fait un recueil, je crois, des chansons de Dréjac. Un triple
album qui est paru chez EPM, on le rappelle. Là, il y avait Claude Lemel. À ta place, il y avait Roland Romanelli qui était là et Rebecca.
Romanelli, mais, oui, ce sont
voilà,
des...
Voilà, hein, quand même, c'était jeudi, il y a deux
jours. Des Rostet, oui.
Voilà, je voulais te citer ces noms parce que tu as croisé, et puis il y a aussi Paco Ibáñez.
Depuis longtemps. Quand il habitait à Paris, on s'est connus. Parce qu'il habitait à côté du centre Pompidou. Alors, et c'est même là qu'on a rencontré avec Montserrat en allant déjeuner chez Paco, Josh Moustaki, justement, avec lequel après on a chanté pas mal de fois ensemble.
Voilà, il faut le dire, parce que ça fait partie de l'histoire de la chanson. Nous, on a eu en 2000. Ici, on avait Georges Moustaki dans ce studio avec Marlène, qui a créé une émission du jeudi qui s'appelle Faites-nous des chansons maintenant. Et on avait Moustaki qui est arrivé. C'est très, très impressionnant. Hein, très impressionnant.
Avec sa nonchalance habituelle.
Mais sa grande précision.
Vraiment, ah oui, ça, c'est toujours.
Faut pas oublier.
Il jouait un peu avec sa prétendue paresse, tandis qu'il était un bosseur, oui,
voilà.
C'est ça.
Eh bien, on va écouter encore un Brassens, et après on va passer au répertoire
normal, disons.
Non, pas normal. parce que personnel, on va dire personnel.
Ouais,
quoiqu'une adaptation est aussi un travail très personnel.
Oui,
de toute façon. Donc on va être dans la continuité. Là, on va écouter. On va même pas annoncer le titre parce que je crois que toute la francophonie et même au-delà connaît ce titre.
El meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi. Llevat dels muts, és clar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una traveta eficaç i es fot de cap al senyoràs. Tanmateix em sembla que hi ha pitjors bromes que deixar fugir un lladregot de pomes. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels cecs, és evident.
Eh, Miquel, je voudrais savoir quand même, parce que là, il y a aussi pour moi un plaisir sur les orchestrations, sur le travail fait sur les chansons de Brassens, où on a l'habitude de la pompe brassensienne, pom, 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 pom. Mais là, toi, comme tu peux te démarquer, tu y es allé à cœur joie, non?
Moi, j'ai l'habitude de faire un style de guitare un peu différent. Parfois un peu picking. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai découvert Marcel Dadi. Et puis, à travers Marcel Dadi, j'ai découvert son maître, qui était Chet Atkins. Et quand je joue un peu style picking, donc je me démarque, comme tu disais, un peu de la pompe brassensienne. Et puis, l'orchestration des disques Brassens, je les ai fait très, très, très simples. Il y a ma guitare, il y a un accordéoniste, il y a un bassiste, et pour moi, ça suffit, parce que Brassens, justement, c'est le mot qui est devant tout, non? Et la façon de chanter, la façon de dire. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre beaucoup de choses derrière des chansons de Brassens.
Oui, c'est ce qu'on se disait presque, oui, même hors antenne, avant qu'on prenne l'antenne, les arrangements, et puis j'ai la sonorité de l'accordéon aussi, oui, je te
moi,
disais.
Moi, j'aimais bien, parce que normalement, beaucoup de gens pensent par sens pour le disque, c'est une deuxième guitare, mais je me suis dit, moi, l'accordéon, ça va aussi. Et c'était un accordéoniste avec lequel on avait travaillé longtemps dans des pièces de théâtre, justement, que j'ai travaillé à Barcelone. Alors on s'est dit, on va faire le nouveau Brassens avec vous aussi, avec les deux musiciens avec lesquels j'avais travaillé en théâtre, à niveau théâtral.
Tu as fait des musiques de scène?
J'avais, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé avec un directeur de théâtre à Barcelone en faisant des textes pour des spectacles sur des poètes, des adaptations théâtrales de pièces de romans, etc. Et parfois, j'ai chanté, j'ai joué, parfois, j'ai regardé et les autres faisaient ce que j'écrivais. Mais normalement, j'émettais aussi des chansons, etc. Oui. Ça a été un peu un travail qui mélangeait un peu la chanson avec le théâtre.
Alors, Miquel Pujadó est notre invité aujourd'hui, interview croisée, évidemment, avec Nicolas, que tu as rencontré il y a fort, fort longtemps. Eh bien, on a maintenant l'auteur-compositeur avec un album. Alors, je vais demander, bien entendu, à Miquel Pujadó de nous dire en catalan, parce que pour nous, c'est pas très facile à prononcer, cette chanson qu'on va diffuser de l'album De Foc i de Velut.
Oui, c'est le dernier disque, De Foc i de Velut.
Qui veut dire
De feu et de velours.
Oui.
C'est pas très différent en français. Le catalan est plus proche du français que l'espagnol, que le castellan. Alors, c'est une chanson, je me suis dit, si je suis à Radio Libertaire, il faut entendre cette chanson. Là, est-ce facile de dire anarchiste? Il est facile de se dire anarchiste. Mm-hmm. C'est un peu mon idée de la difficulté, justement. C'est facile de penser l'anarchiste, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est une éthique très, 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 très dure. Parce que si on n'accepte pas un pouvoir extérieur, il faut, comme disait Cyrano, lier son propre esprit et être très très dur avec soi-même. Alors c'est une chanson sur cette difficulté de l'anarchie à partir de l'expérience personnelle.
L'anarquia no és el caos, és l'ordre menys el poder. És no passar-te gripaus com aquell qui pren cafè. No és la bomba, la pistola, ni l'odi de l'amargat. És l'escola de la llibertat. No és fer el que et dóna la gana, sinó el que saps que has de fer quan només ets tu i et mana i et senyalitza el carrer i enfilar temps turbulents sense perdre mai de vista que és fàcil dir-se anarquista però ser-ho no ho és gens. L'anarquia és no vinclar-te davant déus, davant senyors, és jugar la teva carta sense por a les dents del gos. Però no és saltar-te als semàfors que el té verd mereix respecte tant si és jove com provecte. No hi ha convencions sagrades on arbitràries i fútils, però cal dir que de vegades poden resultar prou útils per conviure amb els veïns. I no em vull fer el moralista, però és fàcil dir-se anarquista, ser-ho porta molts tragins. L'anarquia és plantar cara a l'absurd de l'existència, saber que res no t'empara, acceptar l'obsolescència i no conjugar el verb creure fent servir jo de subjecte mentre duri el teu trajecte. L'anarquia implica angoixa quan trepitges l'escenari, no trobar la vida coixa sense amic imaginari i viure l'ara i aquí. Sabent un fugaç turista, és fàcil dir-se anarquista, però per ser-ho cal patir. L'anarquia és l'utopia que pugem grau a graó, una espurna de follia que saona la raó. És l'amor, l'humor i el dubte, la revolta i la tendresa, un llampec de lucidesa. Anarquia és el vertigen de saltar fronteres, no renunciar al teu origen ni als mots que dus al sarró, mirant com li creix el nas a més d'un colonialista que vol fer-se l'anarquista però n'és ben incapaç. L'anarquia és intentar millorar un xic cada dia i sobretot no imposar als altres la pròpia tria. Ningú no en té la recepta, cadascú se la fa a mida esfollant la margarida. Aquesta és la meva gràcia i si no hi estàs d'acord, fantàstic. No té cap gràcia fer tots cap al mateix fort. En tot cas, cal anar-hi a peu, que no hi du cap autopista, que és fàcil dir-se anarquista, però ser-ho té el seu preu. És fàcil dir-se anarquista, però ser-ho té el seu preu.
Et si t'es pas de mon avis, tant mieux. C'est un peu ça qui est dit à un moment en plus, non?
Ah oui, oui, justement, j'ai dit qu'il y a autant d'anarchie comme de personnes. Et que si quelqu'un n'est pas de mon avis, donc, moi j'ai trouvé ça parfait. Non je crois que c'est pas amusant d'aller tout au même port. Et en tout cas, il faut y aller à pied parce qu'il n'y a pas d'autoroute qui nous mène à l'anarchie. C'est un peu la, la traduction du, de la part finale de la chanson.
Et voilà, alors tu peux nous redire encore avec, ton, avec le, la langue d'origine, le titre.
Oui, « Comme una canso » de Jacques Brel. C'est la seule chanson du disque qui n'est pas totalement à moi, parce que normalement, dans ce disque, de Foc et de Bayou, toutes les chansons, le texte et la musique est à moi, sauf celle-ci. J'ai demandé, j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup une musique de Romain Didier, alors je lui ai demandé permission pour mettre sur sa musique un texte très différent du texte original. C'est un peu ce que faisait Claude Nougaro, d'ailleurs, quand il... prenait une chanson brésilienne, il n'entendait rien parce que Nougaro ne parlait pas que le français. Alors, il prenait une chanson américaine, une chanson brésilienne, et il mettait un texte qui n'avait rien à voir avec le texte original. Tu sais, tu verras. Si tu écoutes Chico Buarque, ça n'a rien à voir. Alors, c'est une chanson que Didier avait consacrée, avait dédiée à Gainsbourg. Et moi, je la consacre à Jacques Brel. C'est une chanson où j'essaye de jouer avec les sensations que j'ai toujours eues en écoutant des chansons de Jacques Brel. Mais la musique, d'une façon spéciale, c'est une musique de Romain Didier.
Faula de pluja i fulles mortes, aquesta cançó de tardor. Sap travessar totes les portes i es fica en qualsevol racó. Parla d'amors que han de venir, de vells amants i de tu i de mi. Cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. Parla d'amics que sota terra segueixen tan vius com abans. Escupa el rostre de la guerra i sap vetllar el son dels infants. Té gust d'alcohol, té gust de fum, té gust de plors, però el seu perfum cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. D'alcohol, té gust de fum, té gust de plors, però el seu perfum cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. Amics i amors, el vés, la rialla, el temps els aboca la mort, però la mort és un foc de palla quan ha d'enfrontar-se al record. No cal cridar, ne me quitte pas, et segueix com un gos aquí i allà. Cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel.
C'est le feu et c'est la glace. Et tu fais même une référence croisée au titre « Feu et velours » de ton propre disque. Et je suis en train de me dire que d'ici la fin de l'émission, Michel, je vais pouvoir prononcer moi-même quelques mots de catalan.
C'est bien. Ouais, cette chanson, c'est pas... De toute façon, c'est la plus simple au niveau de texte, je crois. comme une chanson de Jacques Brel. Et oui, je parle de... Mais c'était pas voulu, hein, cette référence au feu à la glace. Le titre, c'est pas la glace, en tout cas, c'est le feu et le velours. Et là, j'ai dit sur Brel, je crois que je dis ça, la chanson de Brel, ça soigne et ça blesse, c'est du feu, c'est de la glace, et c'est comme une chanson de Jacques Brel. C'est ça. C'est une chanson qui sent l'alcool, sent la fumée, des goûts de pleurs, mais son parfum, ça soigne et ça blesse, etc. Oui. Mm. Et ce sont des arrangements très beaux dans mon ami qui s'appelle Xavier Badiès, qui est un des premiers auteurs de... Justement, c'est le créateur, quand j'avais 14 ans, il n'est pas beaucoup plus âgé que moi, mais quand il avait 17-18 ans, il a créé le premier important groupe de jazz rock en Catalogne qui s'appelait l'Orchestre Mirasol. Justement, c'est un grand musicien. On s'est connu justement il y a 2 ans parce qu'il m'a demandé permission d'enregistrer dans un disque une de mes chansons. J'ai beaucoup aimé sa version, alors je me suis dit on va travailler ensemble, et on a fait ce disque ensemble. C'est comme ça.
C'est magnifique, hein, ces rencontres. Voilà. Et donc, tu as une chanson en version jazz,
J'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup le jazz. Alors, moi, quand j'avais 14 ans, chez moi j'habitais Tarrasa. Tarrasa, c'est une grande ville, de 100 000 habitants, quelque chose comme ça, à 30 km de Barcelone, c'est à côté. Et alors, quand j'avais 13-14 ans, à Tarrasa, on a commencé, il y avait un groupe de sanglais du jazz qui avait organisé la première salle de jazz. Je crois que c'est la deuxième en Catalogne. La première, c'était Jambori en Barcelone. La deuxième, c'était la Jazz Cava à Tarrasa. Moi, quand j'avais 14 ans, j'allais. C'était une toute petite salle, mais on a fait venir ces gens-là avaient fait venir Chet Baker, Jaime Marquez, le Brésilien, Stéphane Grappelli, et toujours Tete Montoliu, le pianiste catalan, qui était comme de la maison. Et alors c'était incroyable parce que tu t'asseyais et tu avais les doigts de Tete Montoliu à 20 cm parce que c'était une toute petite salle. Pour moi, ça m'a marqué, et parfois dans mes chansons j'utilise des rythmes, des ambiances de jazz, et j'avais envie de faire une chanson sur cette première salle où il fallait descendre comme si tu allais en enfer, un petit escalier où tu pouvais aller dans l'après-midi écouter des disques de jazz. Donc c'était la façon à 14-15 ans de connaître un peu les auteurs, les musiciens importants. Et puis la nuit, c'était les concerts. Alors j'ai voulu, avec des musiciens de jazz de Tarrasa et de Barcelone, recréer un peu l'ambiance de cette cava, disons, qui s'appelait la Jazz Cava de Tarrasa. Actuellement, il y a une nouvelle Jazz Cava, beaucoup plus grande, avec une chose que je n'aime pas beaucoup: il n'y a plus de fumée. Pour moi, la fumée, c'était... Moi, je ne fumais pas, mais pour moi, la fumée, c'était un peu une partie importante de l'ambiance du jazz. Alors, c'est une chanson où j'ai parlé, la Jazz Cava, c'était le monde de mes 15 ans, et je cite parfois des musiciens que j'avais vu à cette époque. Quand j'écoutais dans l'après-midi Charlie Parker, John Coltrane, Satchmo, Armstrong, évidemment, Billy Holiday, Chet Baker, et là, quand j'avais vu Johnny Griffin, Jean Mighty Flea, Joe Newman, etc., etc. C'est une chanson d'amour au jazz et à cette salle qui m'a éveillé un peu à cette musique. Aquell temps de la Jazz Cava va ser el temps dels meus 15 anys. I portava aquella escala que no duia cap avern, sinó un paradís menut, càlid com un claustre matern. Unes voltes de maons, un bar, l'escena, uns quants seients, un refugi no et senties a recer dels elements. Molt sovint, a mitja tarda, davallava aquells graons amb les noies amb qui feia els esborranys dels meus petons. No era estrany que cap al vespre s'hi muntés alguna jam i aplaudia els músics joves
a l'escalf d'una bolldam. Aquell temps de la jascava va ser el temps dels meus 15 anys, el temps de la nota blava, temps de somnis i companys. Aquell temps de la jascava va ensenyar-me a improvisar, saltant d'octava en octava, sobre un tema que la vida s'entestava a solfejar. Allà descobrir els discos dels grans mestres del bebop, el ragtime, el blues i el Dixie, i engolia glop a glop Charlie Parker, John Coltrane, Grappelli, Satchmo, Jacques Lussier, Billie Holiday, Chet Baker, Stan Getz, Sidney Bechet. Fascinat i obert d'orelles, aprenia amb emoció el difícil equilibri entre el joc i l'equació. I alternava el Round Midnight i els solos de Thelonious Monk amb els duels entre solistes, grans partides de ping-pong. Aquell temps de la jascava va ser el temps dels meus 15 anys, el temps de la nota blava, temps de somnis i companys. Aquell temps de la jascava va ensenyar-me a improvisar, saltant d'octava en octava, sobre un tema que la vida s'entestava a solfejar. Les nits de concert, un fum espès anava omplint el cau mentre presentava l'acte, com sempre amb Valentí Grau. I vaig veure Johnny Griffin, Joan Albert, Gene Mighty Flea, Jordi Sabater, Joe Newman i molts més que no ho sé dir. Guardo encara la memòria els brecs de l'Adrià Font, que eren ja de matinada un antídot per la son. Els dits del gran Pete Montoliu, la gran ran del meu nas, l'orga Hammond de l'Ubenet, la trompeta d'en Ferràs. Han anat passant els anys, o potser sóc jo qui ha passat, i el projecte d'uns quants bojos ha quedat consolidat. Ara hi ha una nova cava, molt més gran i sense fum, i que ja s'omplia els carrers un cop a l'any, ja és un costum. Però aquell petit racó puc resseguir-lo pam a pam. Va colorejar un temps gris que es negava a fotre el camp. Allà vaig agafar un virus del qual mai no m'he curat, aquell virus resistent que porta el nom de llibertat. Aquell temps de la jascava va ser el temps dels meus 15 anys, el temps de la nota blava, temps de somnis i companys. Aquell temps de la jascava va ensenyar-me a improvisar, saltant d'octava en octava, sobre un tema que la vida s'entestava a solfejar. Sobre un tema que la vida s'entestava a solfejar.
Radio Libertaire 89,4 MHz, de Sud-Seine pour encore un quart d'heure en compagnie de Michel Pouchado et avec la chronique de Moa dans quelques instants aussi. Dans un quart d'heure sur Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire avec Christophe Beer, spécialiste du mauvais genre, des littératures Z, du cinéma X, Y, Z aussi, spécialiste des nains dans le cinéma, des hommes déguisés en gorilles dans les films français des années 50, tout ça. Juste une question, Michel. Si je dis Miguel, tu m'en veux ?
Pardon ?
Si je prononce Miguel ou Miguel au lieu de Michel, tu m'en veux ?
Non, Michel, c'est en catalan, c'est comme si à toi... oui, c'est comme on me disait Michael, c'était en anglais. quand on
Michel
est...
en français.
Non, mon nom c'est Michel, c'est le nom en plus officiel. Donc c'est Michel, c'est Michel. Et pas Michel, parce que parfois on dit Michel, c'est en basque, Michel. C'est Michel avec l'accent sur le E, justement.
Eh bien, Michel ouais. Pujado, qui sera demain en concert à 16h à la librairie Publico, et qui aura à votre disposition quelques exemplaires de son dernier album, oui. Et puis aussi...
quelques-uns de Brassens, oui. de mes adaptations de Brassens.
Qui sera donc le double album.
Oui, le double album, je n'ai pas pu en apporter beaucoup, parce que je suis venu en train. Alors, mais de toute façon, il y a quelques-uns pour celui qui voudra en avoir, c'est ça.
Eh bien, voilà la bonne nouvelle. 16h demain, Publico, venez un petit peu en avance et vous retrouverez Michel Pujado sur scène avec sa guitare classique.
Oui, ah, oui, la classique, quand j'ai travaillé, disons, avec de l'amplification, j'ai la branche, et sinon, c'est disons, classique, sèche, comme on dit acoustique, généralement.
Acoustique,
c'est ça.
Eh bien, la parole est à notre ami Moa, qui m'a laissé une grande place. Nous avons exactement 11 minutes pour la chronique de Moa.
Merci beaucoup. Bon, bah, par tradition, un petit son. Bonjour. Donc, Moa revient. Je n'ai pour quelques minutes. Malheureusement, mon invité qui devait venir, qui avait mis en scène la Terre entre les mondes, n'a pas pu venir. Je suis désolé, donc ça tombait bien, puisque Laurent avait besoin d'un peu plus de temps. Voilà, et j'étais très ravi d'écouter notre ami musicien et chanteur, qui est là présent et qui vous a fait entendre ces très belles chansons. Voilà. Donc, comme il y avait tout à l'heure aussi une manifestation sur la Palestine, je voudrais absolument rendre hommage à toutes les victimes de la violence et de la barbarie à Gaza. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, j'étais invité au Collège de France hier, donc, et j'ai pu profiter d'une allocution d'un monsieur très important qui s'appelle Laurent Coulon. Voilà, c'était à propos de l'Égyptologie. Donc, comme il n'est pas là, donc je vais vous transférer un petit peu ce qu'il pensait. Laurent Coulon est égyptologue et il interroge différents aspects de la civilisation pharaonique à partir d'une approche nourrie aussi bien par l'archéologie et la philologie, s'appuyant sur des sources de première main que par les questionnements de l'anthropologie. Alors voilà ce qu'il pensait, il disait « Ce qui est particulier chez le culte d'Osiris, c'est que l'on peut le voir naître et évoluer dans le temps, sur presque toute la période pharaonique. Il peut donner aussi bien dans l'image d'un dieu à part, par son apparence humaine et son destin de dieu mortel. Ce qui m'intéresse absolument, tout particulièrement, c'est ce que l'on peut appeler l'osérianisation de la religion égyptienne. À partir de la fin du deuxième millénaire, le dieu Osiris s'intègre donc progressivement dans le paysage religieux et on retrouve le couple Osiris-Isis, c'est-à-dire sa sœur et épouse, dans tous les sanctuaires. Le mythe osirien est utilisé donc pour fédérer les territoires de l'Égypte au profit du pouvoir politique, mais sans nier pour autant leur diversité. La présence de reliques d'Osiris à différents endroits, comme autant de parties de son corps, démembrées selon le mythe, montre la reconnaissance de chacune de ces religions locales. Autrement dit, le phénomène osirien n'est pas un pas vers un monothéisme du tout, mais une dimension qui s'ajoute au polythéisme. Donc, c'en est une vision unifiée qui soutient le mythe politique de la royauté pharaonique. Une autre évolution intéressante est que le pharaon traditionnellement associé à Horus, l'héritier d'Osiris, va peu à peu être identifié à Osiris lui-même dans l'idéologie pharaonique. Voilà. Donc ce sont des citations de Laurent Coulon que je vous transmets. Laurent Coulon est spécialiste de la religion égyptienne antique et particulièrement du culte d'Osiris. Ses recherches portent également sur l'éloquence et la rhétorique égyptienne et plus généralement sur le contexte de la société de cour dans lequel elle se déploie. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres classiques. Il a obtenu en 1998 une thèse intitulée « Le discours en Égypte ancienne, éloquence et rhétorique dans les textes de l'Ancien au Nouvel Empire ». Voilà, et donc il a été à l'Institut français d'archéologie orientale où il a été nommé en tant que membre scientifique entre 1998 et 2002. Voilà, et pour terminer, Laurent Coulon, donc, qui est nommé maître de conférence à l'Université de Lyon 2, est détaché en tant qu'adjoint aux publications de l'IFAO à partir de 2004. En 2008, il est recruté comme chercheur au CNRS dans l'équipe lyonnaise, voilà, l'ISOMA. Il soutient en 2014 une habilitation à diriger les recherches intitulées « Les cultes d'Osiris et les évolutions de la religion égyptienne au premier millénaire avant Jésus-Christ ». Voilà, donc, il est nommé par la suite directeur d'études à l'école pratique des hautes études de la chaire religion égypte ancienne et directeur au centre Vladimir Golenichev. Il préside la Société française d'égyptologie 2018-2019 et il est nommé à la direction de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire pour un mandat de 4 ans. En 2023, il rejoint le Collège de France. Donc, tout le monde connaît le Collège de France. C'est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530. Il répond donc à une double vocation, être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Donc, c'est ouvert au public. On y enseigne ainsi à tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription ni de diplôme. Voilà. Et il propose donc, dans ses amphithéâtres en ligne, près de 1000 cours et conférences chaque année, en accès libre donc à tous les publics, des étudiants, chercheurs, simples curieux. Le Collège de France est membre donc associé à l'université PSL. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et un grand plaisir de vous écouter demain à Publico, donc à 16h30, c'est ça ?
Merci. 16h pile.
16h pile, voilà. Merci.
Heure catalane.
Voilà. J'essaierai d'y être.
Et par échange.
J'essaierai d'y être avec ma compagne et ma femme, donc, qui dirige la revue scientifique Science et Avenir et la recherche.
Merci, Moa. Merci.
Vous serez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Merci, Moa. En tout cas, c'est vrai que si tu avais reçu Laurent Coulon, il aurait fallu une émission entière, de toute façon.
Un dernier son.
Je ne l'inventerai pas. J'inventerai pour toi la longue marche. La si longue marche, la voilà. celle qu'il me faut parcourir, haletant, paumé, troublé, hésitant, sur les gradins d'un monde indifférent. Tous les jours accomplis, sans hâte et dans la fièvre, tous les jours insoumis qui m'ont blessé profondément, à mort et sans souffrance. La longue marche, la voici, celle qui me force à tout prendre, à oublier ou se défendre. Tout dire que l'on voulait haïr et qui oblige à renoncer à ce qu'on voudrait comprendre, à ce qu'on voudrait chérir. Si un jour je pouvais fabriquer des étoiles, fabriquer des nuages et fabriquer des mers, j'inventerais pour toi une nouvelle terre où l'amour serait roi. J'inventerais pour toi des amours éternels, la première hirondelle et le premier printemps. J'inventerais pour toi la première caresse, la première promesse et le premier serment. Si un jour je pouvais fabriquer des étoiles, fabriquer des nuages et fabriquer des mers, j'inventerais pour toi le plus fou des voyages au pays des amants qui d'amour savent encore mourir de temps en temps. Gabriel Janier, merci.
Et Evelyne nous fait deux petits cadeaux pour la fin de l'émission.
N'importe comment, je suis amoureux de toi aussi, je suis amoureux de tout un tas de gens. Je suis amoureux de tout un tas de gens, donc je trouve qu'ils sont beaux. Hein, c'est des gens qui sont beaux. Bah ouais, mais attends, c'est à cause du chapeau. C'est à cause du chapeau, t'as essayé de prendre le même chapeau que moi, regarde. Espèce de friponne. Tu vois, c'est pour le chapeau, là.
Le texte de Yaël.
Tu peux lire un poème de Yaël.
Oui, bien sûr, j'en ai là.
Amoureux d'elle, il l'était, il l'est encore, encore à corps.
Mais non, pas du tout. Est-ce que tu t'imagines, toi, en équivalent avec cette dame-là? Putain de Dieu, le petit con. Non, attends. Je voudrais te dire quelque chose de beau, de simple, de fort. Quelque chose qui te dit ce que tu es dans ma tête, ce que tu fais, ce que je pense quand je pense à toi. J'utilise seulement des mots qui le traduisent comme je l'entends, car je l'entends, moi, comme une musique douce et lointaine, sereine et sage. Une musique qui ne ressemble à aucune autre, qui se glisse dans les rêves et s'éblottit chaudement. Écoute avec moi, écoute-moi, viens, laisse-moi te promener doucement dans mon songe, imagine, toi et moi dans ce jardin, nos deux amitiés ensemble confondues, le cœur dans le cœur. Je te cueillerai une fleur qui n'existe pas, je te l'offrirai comme si c'était le plus somptueux des cadeaux. Tu souriras peut-être, tu la prendras du bout des doigts de peur de la casser et la rangeras quelque part dans ton cœur au fond d'un tiroir. Sans la regarder, tu sauras qu'elle est là et ce sera un peu moins, un petit peu de moi, un souvenir. Il fait froid maintenant. La nuit est tombée sur le jardin et la musique très lentement s'étue. Rentrons, veux-tu? Nous reviendrons, bien sûr. Demain, est-ce que le désir? Dans un an, si le veut le destin, qu'importe. La durée qui nous sépare ne compte pas, car quand je le vois, notre instant à nous durer un an, une seconde, un siècle, je ne sais pas. Mais il dure, donc il existe.
Oui, bien sûr.
Damnation, j'ai oublié. J'ai coupé mon générique de Bulle Noire que j'avais chargé tout à l'heure. Donc soit que Stéphane démarre tout de suite Bulle Noire, soit que je prends le temps d'aller le chercher sur ma boîte mail.
Que te dire, on va commencer. Je peux faire avec la bouche. T'as bien capté, Bulle Noire. Sur Liberté, Radio Liberté. Et bien voilà, Bulle Noire qui commence juste en a cappella. Et notre invité d'aujourd'hui, si vous regardez bien les agendas, d'ailleurs, je vous conseille de regarder sur la Radio Liberté, sur le site de Radio Liberté, l'agenda de toute la radio, mais principalement de Bulle Noire, et vous verrez ce qui est prévu dans les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez regardé l'agenda, vous aurez pu
vérifié que c'était Christophe Beer qui était notre invité. D'une part, car on va fêter cette sortie d'Obsession bis, Obsession 2, le deuxième volume concernant les obsessions de Christophe Beer, et qui sont qui est un recueil des différentes chroniques que tu as réalisées pour l'émission Mauvais Genre de François Angelier. C'est paru aux Dilettantes, c'est le deuxième volume. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de Fleurs de Mal de Léon Despère, un Select Bibliothèque numéro 101. Mais oui, ça sera la deuxième partie de l'émission et ça sera, je pense...
Je connais l'auteur.
Tu connais vaguement l'auteur, t'en as entendu. Bon, bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour Stéphane.
Bon, ce deuxième volet des aventures de Christophe Beer et des obsessions de Christophe Beer aux Dilettantes... Comment tu avais déjà publié une première partie, comment s'est fait ce choix? Mais avant que tu me dises comment s'est fait le choix des chroniques et des chroniques que tu as rassemblées dans Obsession 2, il y a une question qui me taraude. C'est à chaque fois, à chaque émission, chaque semaine, tu dois produire un texte. Comment tu détermines le sujet que tu vas aborder à chaque fois?
Eh bien, bon, cette année, les choses sont un peu différentes. C'est que Mauvais Genre a changé de case, comme on dit dans le jargon de radio, et de jour. Maintenant, l'émission passe le dimanche et je n'interviens plus que deux fois par mois. Donc j'ai plus de temps pour choisir. Mais j'aimais beaucoup le rythme hebdomadaire. Effectivement, j'avais comme ça une antenne, une fenêtre de tir, 2 minutes 40, en général 2 minutes 40, 3 minutes, en fin d'émission, toutes les semaines, pour parler d'un livre, d'un film, d'une exposition, d'un catalogue, enfin... Et effectivement, alors le choix, ce ne sont pas mes obsessions, forcément. Ce sont parfois les obsessions des autres. Si je vois tout d'un coup un livre qui excite ma curiosité... D'ailleurs, ce sont souvent les chroniques les plus faciles à rédiger, celles dont je ne connais pas le...